27e leçon. Page 462. Le capitaine Nemo. Écoutez. Un jour, je me rappelle encore la date, c'était le 18 janvier, le temps était mauvais. Je montai sur la plateforme et je vis le capitaine Nemo qui, de sa longue vue, observait la mer. Que pouvait-il chercher là? Je descendis au salon et pris une lunette. Mais je n'eus pas le temps de m'en servir. On me l'arracha des mains. Je me retournai. Le capitaine Nemo était devant moi, mais je ne le reconnus pas. Sa physionomie était transformée. Ses yeux brillaient. Il ne bougeait pas. Enfin, le capitaine Nemo redevint maître de lui. Son visage reprit son calme habituel. « Monsieur Aronnax, me dit-il, il faut vous laisser enfermer, vos compagnons et vous, jusqu'au moment où je pourrai vous rendre la liberté. »« Vous êtes le maître, lui répondis-je. » Je descendis à la cabine qu'occupaient Ned et Conseil, et je leur transmis l'ordre du capitaine. Quatre hommes de l'équipage nous conduisirent à la cabine où nous avions passé notre première nuit à bord du Nautilus. « Qu'est-ce que cela signifie, monsieur ? » me demanda Conseil. Je racontai à mes compagnons ce qui s'était passé. Ils furent aussi étonnés que moi. Cependant, Ned Land s'écria, « Tiens, le déjeuner est servi !» Nous nous mîmes à table. Après le déjeuner, Ned Land s'endormit aussitôt, et Conseil suivit son exemple. Je me demandais ce qui provoquait ce besoin de sommeil quand je sentis que mes yeux se fermaient malgré moi. Évidemment, on avait mêlé des soporifiques à notre nourriture. Je voulus résister au sommeil. Ce fut impossible. Je m'endormis profondément. À ma grande surprise, je me réveillai le lendemain dans ma chambre. Ce qui s'était passé pendant cette nuit, je l'ignorais. Je voulus sortir, j'ouvris la porte et je montai sur la plateforme. Ned Land et Conseil m'y attendaient. Je les interrogeai. Ils ne savaient rien non plus. Alors, je descendis au salon et je me mis à classer mes notes. Je travaillais tranquillement, quand la porte s'ouvrit et le capitaine Nemo entra. Je le regardai. Il avait l'air fatigué. Son visage exprimait une tristesse profonde. « Êtes-vous médecin, monsieur Aronnax ? » me demanda-t-il. Surpris, je le regardai un moment sans répondre. « Oui, dis-je, je suis docteur. »« En ce cas, monsieur, me dit le capitaine, pouvez-vous donner vos soins à l'un de mes hommes? Vous avez un malade? Oui. Je suis prêt à vous suivre. Venez. Le capitaine Nemo me conduisit dans une cabine. Là, sur un lit, je vis un homme à figure énergique. Ce n'était pas seulement un malade, c'était un blessé. La blessure était très grave. Je vis que la mort était proche. « Votre avis sur son état ?» demanda le capitaine. « Vous pouvez parler, monsieur. Il ne comprend pas le français. » Je regardai une dernière fois le blessé, puis je répondis. « Cet homme sera mort dans 2 heures. »« Rien ne peut le sauver ?»« Rien. » La main du capitaine Nemo se crispa, et les larmes brillèrent dans ses yeux. « Vous pouvez vous retirer, monsieur Aronnax, » me dit-il. D'après Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Page 473. Texte complémentaire. L'histoire du capitaine Nemo. Écoutez. Mais enfin, qui est le capitaine Nemo? Jules Verne donne la réponse à cette question dans son livre « L'île mystérieuse ». le capitaine Nemo était un hindou, le prince Dakar, fils d'un raja du territoire, alors indépendant, du Bundelkund. Quand il eut l'âge de 10 ans, son père l'envoya en Europe pour y recevoir une éducation complète. De 10 à 30 ans, le prince Dakar apprit les différentes sciences, la littérature et les arts. Il devint artiste et savant. Il voyagea dans toute l'Europe. Il parlait également le français, l'anglais et l'allemand. Il y avait pourtant un pays où il n'avait jamais voulu mettre le pied. Ce pays, c'était l'Angleterre. Le prince Dakar était élevé dans des idées de vengeance. Il haïssait l'Angleterre et adorait son pays poétique, chargé de chaînes anglaises. En 1849, le prince Dakar revint au Bundelkund et se maria avec une hindoue qui lui donna 2 enfants. En 1857, une grande insurrection éclata. Le prince Dakar en fut l'âme. Il mit ses talents et ses richesses au service de sa patrie. Il se battit au premier rang et fut blessé 10 fois en 20 batailles. Son père, sa mère, sa femme et ses enfants furent tués. Mais l'insurrection fut réprimée et le pays des anciens rajas retomba sous la domination de l'Angleterre. Le prince Dakar revint dans les montagnes de Bundelkund. Là, il réunit une 20aine de ses plus fidèles compagnons et un jour, tous disparurent. Dans une île déserte de l'océan Pacifique, il construisit un bateau sous-marin qu'il nomma le Nautilus. Il s'appela Capitaine Nemo et disparut sous les mers où il trouva l'indépendance qu'il n'avait pu trouver sur la terre. L'archipel grec. Écoutez. Le Nautilus marchait vers l'île de Crète. Au moment où je m'étais embarqué sur l'Abraham Lincoln, cette île s'était insurgée contre le despotisme turc. Mais j'ignorais absolument ce que cette insurrection était devenue depuis. Un soir, je me trouvais seul avec le capitaine Nemo au salon. Il parlait peu. Il me sembla préoccupé. Il ordonna d'ouvrir les 2 panneaux du salon et, allant de l'un à l'autre, il observa attentivement la masse des eaux. Dans quel but? Je ne le savais pas, et à mon tour, je me mis à étudier les poissons qui passaient devant mes yeux. Tout à coup, au milieu des eaux, un homme apparut. Il nageait, disparaissant parfois pour aller respirer à la surface et replongeant aussitôt. Je me retournai vers le capitaine Nemo. « Un homme, un naufragé, » m'écriai-je, « il faut le sauver. » Le capitaine ne me répondit pas et alla vers la vitre. L'homme s'était rapproché, et le visage collé au panneau, il nous regardait. À ma grande surprise, le capitaine Nemo lui fit un signe. L'homme lui répondit de la main, remonta immédiatement vers la surface de la mer et ne reparut plus. « Ne vous inquiétez pas, me dit le capitaine, c'est Nicolas. Il est bien connu dans toutes les Cyclades. Il vit dans l'eau plus que sur la terre, allant sans cesse d'une île à l'autre jusqu'à la Crète. « Vous le connaissez, capitaine ?»« Pourquoi pas, monsieur Aronnax ?» Ayant dit cela, le capitaine Nemo se dirigea vers un meuble placé près du panneau gauche du salon, et l'ouvrit. Il y avait là un grand nombre de lingots d'or. Le capitaine Nemo les mit dans un coffre et le ferma. Ensuite, il écrivit sur son couvercle une adresse, et 4 hommes emportèrent le coffre. Au moment de sortir, le capitaine Nemo se tourna vers moi. « Qu'est-ce que vous disiez, monsieur le professeur ?» me demanda-t-il. « Je ne disais rien, capitaine. »« Alors, monsieur, vous me permettez de vous souhaiter le bonsoir. » Le capitaine Nemo quitta le salon. Je rentrai dans ma chambre très intriguée. D'où venaient ces richesses? Où le capitaine prenait-il cet or et que voulait-il en faire? Bientôt, je sentis que le Nautilus revenait à la surface des eaux. Puis, j'entendis un bruit de pas sur la plateforme. Je compris qu'on mettait le canot à la mer. 2 heures après, le même bruit. Le canot était revenu. Ainsi donc, ces millions avaient été transportés à leur adresse. Sur quel point du continent? Quel était le correspondant du capitaine Nemo? La baie de Vigo. Écoutez. La porte du grand salon s'ouvrit, et le capitaine Nemo parut. « Ah, monsieur le professeur, » dit-il d'un ton aimable, « je vous cherchais. Savez-vous l'histoire d'Espagne ?»« Très mal, » répondis-je. « Alors asseyez-vous, et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. » Le capitaine s'assit sur un divan, je pris place auprès de lui. « Monsieur le professeur, me dit-il, écoutez-moi bien. Cette histoire vous intéressera, car elle répondra à une question que, sans doute, vous n'avez pu résoudre. » Cela se passait en 1702. À cette époque, l'Espagne devait résister à une forte coalition où entraient la Hollande, l'Autriche et l'Angleterre. L'Espagne n'avait ni soldats, ni marins. Elle n'avait que de l'or et l'argent qu'elle recevait d'Amérique. Vers la fin de 1702, elle attendait un riche convoi escorté par 23 navires qui devaient arriver à Cadix. L'amiral qui commandait l'escorte apprit que l'Angleterre voulait s'emparer du convoi et que la flotte anglaise se trouvait déjà non loin de Cadix. Alors, il conduisit les navires dans la baie de Vigo, mais la flotte anglaise y arriva aussi quelque temps après. Malgré ses forces inférieures, l'amiral se battit courageusement, mais quand il vit que toutes ses richesses pouvaient tomber entre les mains des Anglais, il incendia les navires. « Eh bien ? » demandai-je. « Eh bien, monsieur Aronnax, » me répondit le capitaine Nemo, « nous sommes dans cette baie de Vigo. » Je m'approchai des panneaux ouverts et je regardai. Des hommes de l'équipage, revêtus de scaphandres, transportaient des caisses à bord du Nautilus. Je comprenais maintenant. C'était là le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702. C'était là que le capitaine Nemo venait prendre des millions qui étaient pour lui seul. « Comprenez-vous maintenant que je suis riche ?» dit le capitaine. « Je le comprends, monsieur. Permettez-moi pourtant de vous dire qu'il y a des malheureux sur la terre qui meurent de faim, et ces richesses... » Le capitaine me coupa la parole. « Pensez-vous que c'est pour moi que je ramasse toutes ces richesses ? Pensez-vous que j'ignore qu'il existe sur la terre des races opprimées, des gens qui souffrent ? Ne comprenez-vous pas ? Le capitaine s'arrêta sur ses dernières paroles, mais j'avais deviné. Je compris à qui le capitaine Nemo avait envoyé ses millions lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la crête insurgée. D'après Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Page 490. Dialogue 2. Écoutez. Il est très pris. Il passe ses examens. Je suis sûr qu'il va réussir. Je le pense aussi. Il travaille beaucoup. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Répétez. Il est très pris. Il passe ses examens. Je suis sûr qu'il va réussir. Je le pense aussi. Il travaille beaucoup. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Écoutez. Pardon, monsieur, voulez-vous bien répondre à une question?
Oui, pourquoi pas, allez-y.
Selon vous, secrétaire, c'est un métier d'homme ou de femme? Oh, moi, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas d'avis sur la question.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur?
Eh bien, moi, je crois que c'est un métier d'homme ou de femme. Ça dépend.
Et à votre avis?
Non, à mon avis, c'est un métier de femme seulement.
Répétez.
Pardon, monsieur, voulez-vous bien répondre à une question?
Oui, pourquoi pas.
Allez-y.
Selon vous, secrétaire, c'est un métier d'homme ou de femme?
Oh, moi, je ne peux pas vous dire.
Je n'ai pas d'avis sur la question.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur?
Eh bien, moi, je crois que c'est un métier d'homme ou de femme. Ça dépend.
Et à votre avis?
Non, à mon avis, c'est un métier de femme seulement.
Écoutez. Que penses-tu de Robert Martin, notre nouveau collègue? Moi, je trouve que c'est un homme intelligent.
Moi non. Il fait trop le clown à mon avis.
Moi je le trouve très amusant. Il connaît des tas d'histoires.
Il est vrai qu'il parle beaucoup, mais il ne dit pas toujours des choses intéressantes et ses plaisanteries sont souvent lourdes.
Ce n'est pas du tout mon avis.
Répétez.
Que penses-tu de Robert Martin, notre nouveau collègue?
Moi, je trouve que c'est un homme intelligent.
Moi, non.
Il fait trop le clown, à mon avis.
Moi, je le trouve très amusant.
Il connaît des tas d'histoires.
Il est vrai qu'il parle beaucoup, mais il ne dit pas toujours des choses intéressantes, et ses plaisanteries sont souvent lourdes.
Ce n'est pas du tout mon avis.
Écoutez. Mesdames et messieurs, nous avons installé notre micro aujourd'hui, boulevard Montmartre, et je vais interroger des gens qui passent dans la rue pour savoir exactement ce qu'ils pensent sur une émission de jazz qui s'appelle Jazz Variété.
Répétez. Mesdames et messieurs, nous avons installé notre micro aujourd'hui, boulevard Montmartre, et je vais interroger des gens qui passent dans la rue pour savoir exactement ce qu'ils pensent sur une émission de jazz qui s'appelle Jazz Variété.
Écoutez. Pardon, monsieur. Est-ce que vous avez déjà suivi l'émission?
Eh bien, oui.
Vous suivez cette émission régulièrement?
Oh, écoutez, non. Je ne suis pas beaucoup d'émissions.
Est-ce que vous écoutez le jazz?
J'écoute le jazz, mais à vrai dire, je n'aime pas tellement le jazz.
Ah! Alors, est-ce que vous êtes de ces auditeurs qui critiquent la radio française parce qu'on y met trop de jazz ou trop de musique légère, etc.?
J'estime qu'il y a, voyez-vous, trop de jazz par rapport, par exemple, à la musique vraiment légère.
Répétez. Pardon, monsieur, est-ce que vous avez déjà suivi l'émission?
Eh bien, oui.
Vous suivez cette émission régulièrement?
Oh, écoutez, non.
Je ne suis pas beaucoup d'émissions. Est-ce que vous écoutez le jazz?
J'écoute le jazz.
Mais à vrai dire, je n'aime pas tellement le jazz.
Ah!
Alors, est-ce que vous êtes de ces auditeurs qui critiquent la radio française parce qu'on y met trop de jazz ou trop de musique légère, etc.?
J'estime qu'il y a, voyez-vous, trop de jazz par rapport, par exemple, à la musique vraiment légère.
Écoutez. S'il vous plaît, mademoiselle, est-ce que vous pensez, à votre avis, qu'on peut aimer autant la musique de jazz que la musique classique?
À mon point de vue, oui.
Vous pensez que la même personne peut éprouver autant d'intérêt pour le jazz que pour la musique classique?
Ah oui, moi j'aime un bon jazz, un bon orchestre de musique légère, et j'aime la musique classique. Mais moi aussi je trouve justement qu'on passe trop de jazz.
Répétez. S'il vous plaît, mademoiselle, est-ce que vous pensez, à votre avis, qu'on peut aimer autant la musique de jazz que la musique classique?
À mon point de vue, oui.
Vous pensez que la même personne peut éprouver autant d'intérêt pour le jazz que pour la musique classique?
Ah oui?
Moi, j'aime un bon jazz, un bon orchestre de musique légère, et j'aime la musique classique. Mais moi aussi, je trouve justement qu'on passe trop de jazz.